Ce soir. Donc, je suis Olivier Dehanois et on a le plaisir d'accueillir Fanny Georges et Emmanuel Guez sur le thème hétéronomie, pseudonymie et identité numérique. Et je vais les présenter avant de leur laisser la parole successivement. Donc, Fanny Georges est maître de conférence en sciences de communication à l'Université de la Sorbonne. Elle est spécialisée dans la sémiotique des interfaces numériques. Elle est l'auteur de l'ouvrage « Identité virtuelle, les profils utilisateurs du web 2.0 » qui est paru chez Questions théoriques en 2010. Et Fanny, votre réflexion s'articule autour d'un fait d'abord, qui est la multiplication des outils de communication informatisés, comme les forums, les pages personnelles, les blogs, les messageries instantanées, les réseaux sociaux et le célèbre Facebook en particulier. Et tous ces dispositifs proposent à leurs utilisateurs de construire des profils numériques, des profils informatisés. Et je vous cite à la page 11 de votre livre, « Le profil de l'utilisateur sur Internet n'est pas seulement le produit d'une volonté de paraître de l'utilisateur, mais il s'inscrit dans une structure technique. » Et vous présentez alors les procédés et les enjeux de cette transformation identitaire de la personne au profil de la personne humaine, donc transformation de la personne humaine au profil informatisé. Et le problème que vous vous posez, au fond, est le suivant. Comment la représentation de soi informatisée se construit-elle? Quelles sont ses implications sur les relations humaines et la représentation de soi? Alors, si on veut préciser un peu ce problème, est-ce que cette représentation de soi informatisée a un impact réel sur les personnes? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire, comme les adolescents qui s'exclament à la page 44 de votre livre, que, je cite, « Facebook, c'est exactement comme dans la vraie vie, vos amis sont vos vrais amis, les invitations sont de vraies invitations, etc. » Ou à l'inverse, ou alors, est-ce qu'il faut penser que cette représentation de soi informatisée est fictive, qu'elle est une pure illusion qui masque les prérogatives commerciales des industries qui visent à constituer des bases de données de plus en plus fines? Et la position que tout votre livre démontre, mais qui apparaît très bien à la page 191 dans votre conclusion, c'est que les outils de communication que nous avons préalablement cités participent à la construction de nos représentations du réel. Avec Internet, le processus de construction de soi est devenu mixte. C'est l'intérêt de votre réflexion de montrer qu'il est vraiment, ce processus de construction de soi, à la fois virtuel et réel. Et la communication médiée par ordinateur implique pour vous une représentation interactive de soi et le geste d'interagir avec l'environnement. Et cette interaction est au centre d'un processus de construction informatisé de soi. Il y a donc bien un processus d'identification qui est à l'œuvre sur Internet. Et ce processus n'est pas purement illusoire, il joue un rôle dans la construction de soi. Vous montrez comment la représentation informatisée fonctionne comme une métaphore interactionnelle. Je vous cite à la page 71 du chapitre de votre troisième chapitre. Et métaphore interactionnelle qui apparaît comme un processus, un mouvement identitaire qui ne présuppose pas de moi, comme un moi cartésien figé. Qu'entendez-vous par métaphore? Vous la définissez à la page 77. C'est pour vous une analogie, je cite, opérée par l'interprète entre plusieurs structures représentationnelles. Autrement dit, sur Internet, l'individu va construire un modèle intériorisé de lui-même, de son environnement, des objets qu'il rencontre, et des interactions qu'il développe avec ceux-ci. Et il faut souligner les sources originales de cette réflexion sur la métaphore, qui sont les travaux de Lakoff et Johnson, les métaphores dans la vie quotidienne, paru chez Minuit en 1985, en particulier à la page 16. Je cite, La perception recourt à des modèles cognitifs idéalisés, construits au cours de l'expérience et qui structurent en retour cette expérience. Autrement dit, par exemple, les utilisateurs s'identifient à leur profil ou à leur personnage de jeu vidéo sans nécessairement penser qu'ils sont ce profil ou ce personnage. Et cette identification partielle structure leur expérience et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, et cela les fait modifier en retour leur profil informatique. Donc, vous posez un jeu de va-et-vient entre le soi réel et le soi informatisé qui s'enrichissent réciproquement. À travers cette référence à Lakoff et Johnson, on voit cependant que votre analyse ne présuppose pas de moi fixe et immuable. Il n'y a pas d'opposition finalement entre le moi et le monde comme deux entités distinctes. Elle pose au contraire un entrelacement entre le soi et le monde. L'interface numérique va donner une dimension nouvelle à cet entrelacement. Le moi est un flux qui ne cesse de se constituer dans l'interaction avec le monde et aussi avec l'interface informatisée. Et la métaphore interactionnelle comporte en effet trois aspects principaux et étroitement liés. Métaphore du soi, du chez-soi et du flux, que je vous laisserai tout à l'heure expliciter. Et les travaux d'Emmanuel Guèze, qui est chargé de la recherche et des projets de l'École supérieure d'art d'Avignon, explorent les mutations contemporaines de l'identité et du langage. Et vous vous demandez, ce qui rejoint les travaux de Fanny, quels sont les effets du numérique sur l'écriture ? Avec deux questions centrales qui animent votre travail artistique, la question du nom et la question de l'écriture comme acte performatif. Et donc, je vais vous laisser présenter votre projet, vos projets, avant de peut-être lancer les questions. Oui, allez-y. Et après, on posera. Il y a plusieurs points. Vous avez parlé du web comme scène, qui est une métaphore. En fait, je voudrais qu'on vienne là-dessus. Et d'abord, en posant cette question à Fanny, qui a travaillé énormément sur cette idée-là, sur cette idée de métaphore, pour qu'elle nous explique un peu ce qu'elle entend lorsqu'elle dit... qu'est-ce que vous entendez lorsque vous dites qu'il y a une métaphore de soi, justement ? Sur le web, et après rebondir par rapport à ce que vous avez dit, parce que c'est faire exister des êtres pour vous, des identités. Alors, est-ce que vous seriez d'accord sur cette idée-là, faire exister des êtres, ou est-ce que c'est plutôt le reflet? Alors, on a dit que vous considérez qu'il n'y a pas de différence justement entre le soi réel et le soi fictionnel. Et est-ce que vous seriez d'accord avec cette absence de différence, Fanny, ou est-ce que quand même le web, il n'est pas le reflet de personnes réelles?
Oui, donc je vous remercie. Alors, je pense qu'il y a deux choses, enfin deux situations bien différentes. C'est celle de produire en fait des identités volontairement fictionnelles, comme vous le faites, Emmanuel, en créant des personnages, en jouant le jeu de l'écriture collective, littéraire, et le fait simplement d'utiliser le web pour communiquer dans ses besoins quotidiens. Et effectivement, je crois que cette tension en fait entre fiction et réalité, elle réside aussi entre la différence de ces différents, enfin la différence de ces deux postures, parce que moi je me suis intéressée essentiellement justement aux situations de la vie quotidienne où on va utiliser Internet pour communiquer avec ses proches ou faire des rencontres ou effectivement expérimenter aussi peut-être au cours de ses premières expériences, bon, différentes facettes de son identité. Donc, pour répondre peut-être à votre première question, qu'est-ce que la métaphore du soi ? Donc, la métaphore du soi, comme vous l'avez très bien souligné dans votre résumé, c'est, moi, je l'ai entendu comme effectivement une figure d'analogie entre l'image de soi et puis l'interface. Donc, à travers les profils utilisateurs, donc, que j'ai particulièrement étudié pour analyser ce phénomène, en sachant que les profils utilisateurs sont apparus relativement récemment, à partir de 2004. Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet un petit peu avant, en 2001-2002, à travers justement des expérimentations dans les pages personnelles, alors qu'il n'existait pas encore de profil utilisateur. Mais donc l'idée, c'était de, à travers les premières pages perso dont certains ici se souviennent peut-être, donc c'était des pages en HTML qu'on créait de A à Z avec des éditeurs type Dreamweaver ou Netscape Navigator, voilà, à l'époque. Donc c'était des pages que l'on créait donc de A à Z, qu'on choisissait toutes les informations que l'on souhaitait pour se présenter. Également, donc ça, c'était c'est la première forme de présentation de soi sur Internet qui m'a intéressée de par le fait que pour moi c'était la première fois, enfin la première situation où on pouvait créer un être autonome. Moi, j'ai eu ces premières envies de se présenter librement au départ, tout comme vous, j'ai créé un personnage fictionnel pour commencer à réfléchir sur ce sujet de la fiction identitaire, parce que en effet, Internet permet de prendre conscience de cette dimension constructiviste, on va dire, de l'identité, donc à l'antithèse des théories essentialistes qui vont considérer que l'identité existe en soi par un individu. Ici, Internet permet de... permet de prendre conscience, enfin formalise en fait cette idée qu'il n'y a pas d'identité en soi et que l'identité, on va la construire à travers son expérience, à travers des actes, une communication donc avec autrui sur ce support. Parce que finalement, auparavant, avant Internet, je pouvais aussi créer des fictions identitaires. Moi, j'en ai fait aussi dans un journal intime, par exemple. On va se raconter de différentes manières. C'était toute la tradition du journal intime qui a été justement confrontée à ces nouvelles formes d'écriture de soi au début des années 2000. Si ce n'est que ici, cette forme d'écriture de soi, elle est socialisée parce qu'il y a un lecteur. Et donc le fait qu'il y ait un lecteur, ça donne existence en fait à ces premières traces de soi. Donc la métaphore du soi, elle commence à se construire à ce moment précis où on choisit un nom pour se représenter, on commence à saisir des informations qui sont disponibles et lisibles pour un tiers. Et en fait, elle se constitue de différentes couches. Donc, les informations, je disais, l'identifiant, soit pseudonyme, nom, prénom, également d'un ensemble de traits caractéristiques qu'on va saisir pour se décrire, alors décrire sa personnalité dans un site perso, ou bien par exemple des logiciels de messagerie instantanée comme ICQ ou MSN, on avait la possibilité de se décrire en quelques mots, ou sur un site de rencontre également. Également un ensemble de sociatifs qui vont formaliser en fait une représentation des amis, donc de la personne dans son contexte social. Donc ce sont tous les contacts dans les blogs, donc qui sont de nouvelles formes de présentation de soi, donc apparues à partir de 2004, et qui, à la différence donc des premières pages personnelles, intègrent la figure de l'autre à l'intérieur de la représentation de soi. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez investi ces formes de représentation, ces blogs, qui effectivement assoient dans son contexte social l'identité numérique de l'utilisateur. Également, on peut distinguer un autre ensemble, celui des possessifs, qui sont l'ensemble des documents mis à disposition sur les pages de profil ou les sites, et qui participent de la présentation de l'identité du sujet. Donc ça peut être aussi bien des vidéos que je partage et qui parlent surtout de mes centres d'intérêt, de mes activités, mais qui, ce faisant, étant perçus par d'autres, participent de l'image que l'on se fait de moi-même. Donc ces différentes catégories du nom, prénom, des qualifiants, des associatifs et des possessifs correspondent à une typologie qui a été, curieusement, une typologie qui a été construite par William James, un philosophe, fondateur du pragmatisme à la fin du 19e siècle, donc une typologie de la conscience de soi. Et moi, c'est cette analogie qui m'a frappée. Pour William James, alors lui, il parle du soi matériel. Le soi matériel, c'est pour lui, donc en tant que pragmatiste, c'est cet ensemble d'informations, d'éléments, cette représentation qui va se fonder en fait sur la perception du corps en tant qu'objet matériel, la maison également avec les possessions et tout ce qu'elle contient. En fait, il dit que les biens, tout ce que la façon dont je personnalise ma maison, les objets qui sont à l'intérieur de ma maison, participent en fait de la conscience de soi. Également, les amis, pour lui, font partie du soi matériel à travers le soi social. Donc, mes amis, en fait, sont un reflet de ma personnalité, participent aussi, à ce titre, de l'image que je me fais de soi. Et William James, en fait, ainsi, va caractériser la conscience de soi à partir d'un ensemble d'éléments de la vie réelle du sujet qui, en fait, par le fait que le sujet les observe, participe de cette image de soi. Donc moi, j'ai essayé, dans mon travail, de retrouver, de tisser en fait ces analogies pour construire cette métaphore du soi. Et donc ça, c'est donc cette, comme vous le disiez, en fait, la métaphore du soi, c'est cet élément central qui va articuler une plus grande analogie avec d'autres signes qui renforcent en fait ces liens d'identification. À moi-même, notamment la métaphore du flux. Il me semble que vous travaillez particulièrement, notamment j'ai vu que vous, à travers les flux RSS, etc. Donc, et puis également l'usage de Facebook, puisque dans Facebook,
Il y a quelque chose d'intéressant. Je souligne juste ce que vous êtes en train de dire, c'est les indices de vivance. Vous parlez vraiment de par rapport au flux, les indices d'humeur en fait, où on va mettre, on change constamment d'humeur, donc on.
Oui. Voilà, donc là ce sont effectivement, j'allais justement l'évoquer, c'est ces notifications de statut dans Facebook qui notifient son humeur, sont autant d'informations qui actualisent finalement cette structure centrale de l'identité qui est formée de ces signes dont je vous ai parlé, donc identifiant, qualifiant, associatif et possessif. Et en fait, le fait que une partie de ces informations soit régulièrement actualisée donne une sensation, une impression de vivance, ou bien simplement ils sont animés en fait d'un souffle de vie, exactement comme une personne bouge devant vous. Et vous vous dites cette personne est présente. Un inanimé parce que effectivement elle bouge. On a le flux de la parole, etc. Et donc ces profils d'utilisateurs, ces formes de représentation de soi entrent si bien en résonance avec l'image que l'on se fait d'une personne, c'est aussi qu'elles ont intégré à l'intérieur de cette structure des éléments qui entrent en résonance avec différentes caractéristiques du corps, donc dans ce mouvement notamment.
Justement, on parlait du corps. Vous disiez tout à l'heure, pour répondre à ce que disait Savine, on ne sait pas qui est-ce qu'il y a derrière. Des fois, c'est des robots qui tissent la toile. Justement, alors que dans la communication qui n'est pas médiée par Internet, le corps apparaît comme finalement le premier vecteur de communication, puisqu'il permet de poser des interactions permanentes entre les personnes. Et l'allure générale de notre corps est déjà un moyen de communiquer. Si dans une discussion, par exemple, je garde le silence, ça peut être un moyen de témoigner mon mécontentement ou autre chose. Mais sur Internet, il n'y a pas... Alors ça marche aussi, justement, c'est ma question. Si notre corps n'est pas présent ou qu'il est présent partiellement sur Internet, est-ce qu'on peut véritablement communiquer sur Internet Ou, par exemple, vous parlez d'exis numérique. À la page 56 de votre... Vous avez cette expression, l'exis. Est-ce que vous pourriez revenir ? Est-ce que vous pourriez préciser cette expression ? Comment on communique sans corps ? Ou quelle est la nature du corps dans la communication sur Internet ? D'accord. Vas-y, vas-y. Vite.
Oui. Donc, l'identité numérique se constitue d'un ensemble d'informations, et ces ensembles d'informations de l'utilisateur effectuent une sorte de médiation du corps. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équivalence possible, étant donné que c'est une, à la fois une réduction des signes qui me manifestent en ligne, dans la mesure où, à la place de ma voix, même si voilà, je vais taper un certain nombre de caractères pour exprimer ma pensée, en place de mon corps, je vais faire figurer une photo de profil. Finalement, c'est un ensemble d'informations dont je vais choisir certaines pour créer une forme de réduction de moi-même, au sens un schéma, silhouette de moi-même. Et à la fois, il va y avoir un processus de transformation de ces informations, puisque ce faisant, d'autres informations qui ne sont pas disponibles dans la communication en face à face vont être créées, donc, par exemple comme les fautes d'orthographe. Qui comptent beaucoup en fait dans l'image que l'on se fait d'une personne, notamment dans les sites de rencontres. Hein, ça, pour avoir pas mal étudié les sites de rencontres, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend une importance démesurée, alors que lorsqu'on discute quelqu'un dans la rue, on va pas se formaliser, même sur en fait des défauts de syntaxe ou voilà, mais ça prend une importance démesurée. Ça, c'est un exemple, mais ça montre comment l'image de soi sur Internet est finalement a très peu de rapport avec l'image que l'on se fait d'une personne en face à face. C'est vraiment une reformulation, pas seulement une réduction, mais vraiment une transformation. Et moi, j'ai fait expérience aussi pendant alors, tout début de mes travaux, justement, à l'image de beaucoup d'utilisateurs dans les années 90, qui avaient pour coutume, puisqu'à l'époque, on discutait avec des gens à l'autre bout du monde pendant de longs mois avant de se rencontrer, donc de discuter avec quelqu'un que je n'ai pas rencontré pendant un mois et demi. Ça, ce sont des situations qu'a notamment étudié Madeleine Pastinelli, qui est une chercheuse québécoise, une sociologue, et qui a remarqué à quel point les utilisateurs donc, qui rencontraient les personnes au bout parfois d'un an, deux ans, et c'était se faisant parfois même marier en ligne, ça se faisait à l'époque où c'était fait des promesses de mariage et d'amour éternel, en se rencontrant était sidéré par la différence entre l'image qu'elle s'était construite de la personne, mais bien involontairement, au cours de ces longs mois de discussion, et la personne qu'elle avait en face d'elle. Et notamment, Madame Pastinelli citait un exemple d'un homme qui avait rencontré une femme et qui était, au bout de deux ans justement, et qui était frappé par le caractère hirsute de son personnage et le fait qu'elle avait une queue de cheval, alors qu'en fait, sur la photo qu'elle lui avait envoyée, elle avait les cheveux détachés. Et il était vraiment frappé, dit-elle, par ces informations, comme si finalement il y avait eu une méprise profonde. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, il y a des informations qui prennent une importance démesurée, et même à son insu, si on a l'impression, en fait, de communiquer finalement avec de rencontrer enfin un pur être avec qui on pourrait s'accorder mentalement, c'était un petit peu ce fantasme des premières identités numériques dans les années 90, eh bien, finalement, on ne peut pas s'en empêcher. Il y a ce processus irrémédiable d'interprétation qui fait qu'on se forme une image un petit peu différente de la personne et qui fait que les gens ont compris dans les usages au milieu des années 2000 que finalement il valait mieux très vite rencontrer la personne dans les sites de rencontres pour pas se faire une idée fausse en fait de cette personne dans un sens comme dans un autre, hein, mais qu'il valait mieux tout de suite se rencontrer en face à face plutôt que de tisser de longues discussions en ligne, puisqu'en ce cas on se crée une image bien différente de la réalité. Oui, non, mais tout à fait. Alors ça, je parlais vraiment très particulièrement de la situation de rencontre amoureuse, parce qu'en fait, elle a pour vocation de se concrétiser. Alors, il y a eu effectivement cette tradition des amours virtuels dans les années 90, mais c'est vrai que c'était bien différent en fait d'une situation de jeu où effectivement là on va collaborer avec des joueurs et vraiment dans la finalité de jouer en ligne. Donc effectivement là je rejoins totalement votre point de vue sur ce sujet, c'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment une effervescence, une vraie sincérité du lien social en ligne. C'était pas du tout pour effectivement produire un jugement négatif sur ce qui peut se construire en ligne, hein, bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, le corps est extrêmement présent dans cette situation de communication en ligne, au point qu'on peut souvent être immergé, au point de l'oublier, en fait, ce corps, oublier justement ce qui a été énormément, enfin, provoqué pas mal de controverses médiatiques, oublier de manger, oublier de dormir, etc. On met le corps biologique en second plan, tandis qu'effectivement, on se laisse aller dans son... Enfin, vraiment à l'immersion numérique, hein, au sens vraiment où on s'immerge dans ce corps second. Et peut-être pour revenir à la question en lien que vous me posiez tout à l'heure sur la notion d'excis numérique, donc c'est justement une notion intéressante qui est issue des travaux de Christine Detrez sur l'excis corporel. Alors l'excis, c'est un concept qui désigne en fait la transformation du corps dans le contexte de l'expérience quotidienne, c'est-à-dire qu'en fait c'était le corps que l'on acquiert en fait dans la vie réelle, c'est-à-dire vraiment le corps biologique, serait façonné par notre expérience, ce qui explique que plus on vieillirait, plus on ressemblerait en fait à la somme de nos actions. Enfin, pour le dire simplement, c'est vraiment un concept beaucoup plus complexe. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ce que ça peut donner justement sur le numérique, parce que il me semble que le numérique, étant donné qu'on crée donc déjà ex nihilo au départ un corps, là il n'y en a pas, justement qu'on crée des signes pour avoir, enfin prendre existence vraiment en ligne, eh bien l'ensemble de ces signes, ils vont être justement façonnés purement par cette expérience. Donc c'est en ça que j'avais parlé, dans ma thèse, dans cet ouvrage, d'excis numérique pour désigner ce processus par lequel, plutôt que de créer, en fait, même lorsqu'on crée une pure illusion fictionnelle, je suis pas artiste, en fait, j'ai juste utilisé en fait ces ressources un peu créatives au départ pour commencer à réfléchir sur l'identité. Lorsque j'ai commencé à créer mon personnage, moi, j'ai eu beaucoup de mal en fait à tenir ce personnage fictionnel au départ, parce que finalement, à un moment, on coïncide totalement avec son personnage, c'est-à-dire que on est obligé de poster au moment où il poste des messages, on est obligé de se connecter aussi fréquemment que en fait son existence le demande, et finalement on en arrive vraiment à être obligé de coïncider purement avec son personnage. Mais j'avais donc créé un personnage qui allait notamment dans les cimetières prendre des photos, réfléchir à des textures, c'était les textures justement des troncs d'arbres, etc. Et c'est vrai que même si c'était une pure visée en fait théorique au départ, en devant l'animer, j'étais bien obligée de transformer en fait cette idée en réalisation concrète, et du coup à essayer de négocier entre mes aspirations à moi, Fanny Georges, et puis les aspirations de mon personnage. Et c'est à ça justement en ça que se constitue cette notion d'excis, et en ça aussi que je ne pense pas qu'il existe un anonymat total sur Internet, même si on change de nom. En fait, nécessairement, on a coïncidence au bout d'un certain temps avec cette personne que l'on crée en ligne, et puis soi-même. On ne peut pas mentir finalement lorsqu'il s'agit d'animer un personnage en ligne. Et c'est en ça que je vois tout à fait, et je comprends tout à fait votre positionnement. Et donc cette idée selon laquelle on créerait finalement à travers cette identité numérique une forme au fur et à mesure de l'expérience, vraiment une forme qui correspondrait à l'image de notre identité. Alors si ce n'est qu'ensuite il y a cette problématique de coïncider totalement avec ce personnage virtuel pour qu'il corresponde vraiment à cette image de soi, ce qui à un moment devient un défi qui est très difficile à gérer lorsque effectivement vous avez des enfants, vous avez un travail qui n'a rien à voir avec le fait d'être un personnage sur Internet, que vous preniez de la distance avec.
On va peut-être laisser à la salle poser les questions, hein, si elle en a.
Je vais commencer avec une question pour toi. On avait bien insisté au début sur le fait que ce que tu fais, c'est que tu as de la littérature. Mm. C'est un processus d'écriture. Mm. Il me semble que quand on regarde un peu l'histoire de la littérature, elle ne passe pas faire d'un certain protocole. Chez Homère, il y a un aide qui rentre dans la salle, on sait a priori qui va déclamer, qui va scander. Un livre, aujourd'hui, il y a une couverture, un nom d'auteur. Oui. Avant de l'ouvrir, on sait, il est dit que c'est de la littérature, c'est de la poésie, c'est de la fiction. Oui. Je me demandais si la littérature peut se défaire de ce protocole. Est-ce qu'elle n'a pas besoin de se dire, a priori, je suis de la littérature pour mon maître? Et est-ce que quand tu dis que tu écris, tu fais de la fiction,
oui.
On peut l'imaginer de ton point de vue,
oui.
Mais du point de vue d'un internaute qui va croiser les textes que tu produis, oui. Je pense pas qu'il ait affaire, lui, à de la littérature, oui. Et on peut peut-être imaginer qu'au terme de ton travail, quand tu auras fait acte de déclaration d'auteur,
oui.
Les textes seront une récollection sous forme d'œuvre.
Oui.
Mais est-ce que dans l'intervalle, entre-temps, c'est pas purement un abus de l'autre ou un mensonge élégant
Peut-être, peut-être juste en complément aussi pour rebondir sur justement cette question de la littérature, enfin est-ce de la littérature, quelles sont les formes de légitimation. Je pense que le numérique, d'une manière générale, a enclenché un phénomène de production créative de la part d'amateurs. Alors on parlait de mouchettes, effectivement moi-même je m'y suis essayée. Je veux dire, il y a énormément de formes émergentes de création qui finalement, parce qu'elles n'avaient pas de support de communication précédemment, justement avec la possibilité de faire part de ses créations à un grand nombre de personnes, en fait était passé sous silence. En fait, il y a certainement beaucoup de personnes qui rédigeaient dans leur coin en fait des romans qui n'ont jamais été publiés. Et en tout cas aujourd'hui, que ce soit les joueurs de jeux vidéo par exemple, moi j'ai étudié ça pendant 2 ans, produisent notamment des machinima, des vidéos issues de leur pratique de jeux vidéo qui sont d'une richesse incroyable. Il y a des genres documentaires, des genres fictionnels, des genres humoristiques, des genres comédies, bon, qui s'inspirent parfois des genres du cinéma existant, de la télévision, ou bien également inventent de nouvelles formes de performance, justement à l'image aussi de vos propres travaux, Emmanuel. Et donc je pense que aujourd'hui, c'est vrai que le terrain du numérique, il est difficile de penser cette nouvelle forme de légitimité. Alors certains sociologues ont étudié justement la construction de la notoriété par les amateurs qui diffusent leur production créative en ligne, en montrant qu'il y a effectivement un processus par lequel, lorsqu'on est en quête de reconnaissance, on va progressivement davantage soigner la mise en scène de son travail. Alors se créer un site internet, soigner la qualité des visuels de la mise en page, soigner les textes d'accompagnement, ensuite essayer d'entretenir un public aussi, liker les œuvres des autres pour être liké soi-même sur Facebook, et engendrer comme ça un phénomène vraiment de construction active de la notoriété qui est extrêmement différent de la construction de la notoriété en fait via un éditeur classique, où là finalement on délègue toute une partie du travail à cet éditeur, et effectivement il y a ce processus de sélection. Donc, aujourd'hui on est face vraiment à de nouvelles formes de création émergente. Et je me demande justement, vous avez parlé de ce terme, vous avez employé le terme de performance pour désigner en fait cette forme de littérature que vous pratiquiez. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une forme de performance littéraire plutôt que de la littérature au sens classique ?
Voilà, d'autres questions peut-être ?
Sur Internet, tout le monde peut être n'importe qui, comment concevoir du coup, le rapport à autrui et du coup le rapport éthique qu'on peut avoir sur Internet?
Alors, Effectivement, en réaction à cette multitude de possibilités de s'identifier sous différents noms sur Internet, les utilisateurs ont développé des codes d'interprétation spécifiques. Alors justement, à quelles informations se fier lorsqu'on sait que la plupart des utilisateurs mentent même sur leur profil Facebook? Alors pas forcément nécessairement d'ailleurs pour se créer un personnage fictif, hein, mais simplement pour se protéger, en fait, protéger son identité, hein, puisqu'on sait que il est dangereux de donner trop d'informations sur soi-même qui permettent de se localiser sur Internet. Donc, en tout cas, des études et des enquêtes ont été conduites qui montrent que la plupart des adolescents, notamment, alors mentent sur leur âge, sur justement leur descriptif et pas mal d'informations déclaratives. Donc, par ailleurs, ils mettent énormément de photographies d'eux en ligne avec leurs amis, bon, ce qui est une mauvaise technique pour se cacher, mais ça, c'est une autre question. En tout cas, donc, ils ont des enquêtes, notamment américaines, montrent que les informations les plus authentiques donc interprétées et relevées par les utilisateurs sont les commentaires postés par les amis sur le profil d'une personne. Donc en fait, on va moins regarder les informations que je saisis moi-même pour me représenter que les informations que les autres postent sur moi, en se disant que ben, au moins les réactions de mes amis ne peuvent pas mentir, elles parlent vraiment de la personne. Et en fait, en affinant un petit peu, ces études ont montré que c'était en fait moins le contenu des messages qui comptait que le caractère attractif de la photo de profil de la personne qui poste sur votre message. Donc en gros, ça veut dire que en fait, on est jugé sympathique si on a des personnes avec une photo de profil sympa et jolie en fait qui poste sur notre profil. Donc il faut choisir, c'est un conseil pour être jugé sympathique, donc des personnes qui ont de belles photos de profil et qui les invitaient à poster sur votre profil. Donc on voit comment finalement les utilisateurs ont pris en compte ces différentes manières de se présenter et ont développé des procédures d'interprétation un petit peu détournées, alors qui sont évidemment pleines de une certaine forme de naïveté, etc. Ça correspond pas forcément à l'image effective de la personne, mais en tout cas il est vrai que aujourd'hui, notamment avec l'essor faramineux de Facebook depuis quelques années, qui est devenu donc l'application la plus populaire dans la plupart des pays dans le monde. Donc les utilisateurs, les personnes lorsqu'elles se rencontrent en fait utilisent régulièrement Facebook pour apprendre des choses complémentaires sur des personnes donc qu'elles viennent de rencontrer ou des personnes qu'elles connaissent depuis longtemps. Et notamment ce qui est assez surprenant, j'ai toujours ces enquêtes américaines, c'est que pour les personnes qu'on connaît déjà, enfin les personnes que ces personnes connaissent déjà, en fait elles disent avoir appris des choses extrêmement importantes sur Facebook qu'elles ne savaient pas auparavant sur ces personnes. Donc là encore, on a concrétisé en fait ce rôle complémentaire de l'identité numérique par rapport à l'identité que l'on délivre dans la communication en face à face. C'est-à-dire vraiment, l'identité est aujourd'hui équipée par le numérique. Et même finalement, si on n'a pas de profil utilisateur dans Facebook, dans beaucoup de milieux aujourd'hui, ça compte pour une information. C'est-à-dire, c'est très difficile de s'en prémunir parce qu'étant donné que c'est devenu un support de présentation de soi vraiment normalisé, on va dire, le fait de ne pas y être, ça compte vraiment pour une information. On se dit, cette personne n'est pas présente sur Facebook, et ensuite on l'interprète de manière... Alors c'est pas la question que, de laquelle moi j'interprète, mais c'est vraiment les utilisateurs qui interprètent moi personnellement. Moi j'ai un profil Facebook du fait que j'ai énormément travaillé sur Facebook, mais c'est vrai que je suis devenue un petit peu une parano des informations que je délivre vraiment en ligne, les ayant énormément étudiées. Donc j'ai une certaine angoisse à chaque fois que je poste une information en ligne en me demandant en fait toutes les manières comment est-ce qu'elle pourrait être interprétée par mes différents cercles d'amis, dans laquelle j'ai des étudiants, des collègues.
Justement, dans la question de monsieur, il y avait le rapport éthique, et à la page 194 de votre livre, vous parlez d'une tyrannie de la présence et du lien communautaire. En conclusion, est-ce que vous pourriez revenir sur cette expression que vous employez? En conclusion, vraiment, on attend que vous y reveniez encore dans un prochain livre.
Oui, alors...
tyrannie de la présence.
Oui, effectivement, sur cette tyrannie de la présence, en fait, même si je n'ai pas employé cette expression de façon systématique, en fait, j'ai la plupart du temps publié des articles, en fait, mais beaucoup, beaucoup. Donc, ce n'est pas dans cet ouvrage, effectivement. Mais en fait, en analysant la perte d'emprise de l'utilisateur sur sa représentation, donc on a vu qu'il y a un ensemble d'informations que l'utilisateur saisit volontairement pour se représenter, mais finalement, aujourd'hui, de par les usages qu'on évoquait tout à l'heure, finalement, ces informations sont celles qui sont jugées le moins authentiques par les utilisateurs. Et avec l'émergence du web 2.0, du web participatif, du web social, donc celui de Facebook, MySpace, de toutes ces applications qui proposent de créer des sites personnels en trois clics, on a vu l'essor de deux autres surcouches d'informations. Les informations qui sont saisies par le système informatique et notifiées sur la page de profil, c'est-à-dire toutes les notifications d'activité de l'utilisateur en ligne. Alors ça va être X est désormais ami avec Y, X a téléchargé telle application, il a contacté un tel, il a obtenu tant à tel test de personnalité. Donc toutes ces informations, l'utilisateur ne souhaite pas forcément qu'elles soient notifiées sur son profil, mais le système informatique décide que par défaut il va les mentionner, et de sorte qu'elles vont faire partie de la représentation de soi. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé l'identité déclarative, donc qui est une façon de, qui marque l'emprise du système informatique sur la présentation de soi, qui vont être donc socialisées, mises en ligne, mais en tout cas sur les pages de profil, ça se concrétise en le nombre d'amis, le nombre de likes, le nombre de groupe auquel on participe, le nombre de commentaires qu'on a reçus, qui sont des informations qui introduisent du chiffre dans la représentation de l'identité. Et ça, c'est pas innocent, parce que vraiment, pour moi, symboliquement, je trouvais que c'était vraiment caractéristique de toutes ces tyrannies, en fait, de la présence, c'est-à-dire qu'il va falloir sans cesse capitaliser un grand nombre d'amis pour être jugé sociable, dans une certaine mesure, parce que si on a trop d'amis, c'est plus réaliste. Donc, en fait, il y a des normes de chiffres, de nombre d'amis qui se sont mises en place. De la même manière, il faut avoir un certain nombre de likes pour être jugé populaire ou reconnu sur un poste. Alors, moi, j'ai déjà entendu dire des utilisateurs, de toute façon, celui-ci, lorsqu'il poste un commentaire, personne ne le like, et le pire, c'est qu'il se like lui-même. Alors ça, c'est vraiment, vraiment pathétique, parce qu'il a tellement peu de reconnaissance, en fait, qu'il est obligé de lui-même de se liker ses propres posts. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Moi, ça m'est arrivé, malheureusement, de liker mes propres posts. En tout cas, on a cette émergence du chiffre dans la représentation de soi qui quantifie certaines informations et introduisent une rationalisation là où auparavant on n'aurait jamais songé les profils Facebook à dire alors moi j'ai 362 amis je participe à tant de groupes. Et donc tout ceci, effectivement, ça engendre une modification de la présentation de soi et une tyrannie de tous ces chiffres, et notamment de la présence, puisqu'il faut toujours se manifester pour exister.
Voilà, faut prendre cher en quelque sorte, en likant, en se manifestant. Voilà. Emmanuel, vous vouliez réagir sur...
Alors, c'est une évolution, parce qu'avant la métaphore du profil, il y a eu la métaphore de l'avatar, qui sont totalement, justement, dans cette idéologie hippie que vous évoquiez, parce Avatar, en fait, c'est un terme qui est apparu en 95 suite à un roman de Neal Stephenson, qui emploie ce terme avatar, donc issu de toute cette mythologie hippie. Donc l'avatar, c'est vraiment cette incarnation du dieu Vishnu. Effectivement, ce qui est intéressant, c'était qu'au départ, dans les années 90, on avait peut-être aussi, à cause de ce rayonnement de la métaphore de l'avatar, en fait, toute une idéologie de l'identité numérique comme cette possibilité de se trouver soi-même. C'est toute cette période dont je vous parlais tout à l'heure. On avait l'impression qu'on allait rencontrer le soi, en fait, le soi ultime, en fait, de l'autre, qu'on allait mieux se connaître soi-même. soi-même. Ça, ce sont des, notamment les travaux de Sherry Turkle dans les années 80-90, ont montré vraiment cette quête de soi chez les premiers utilisateurs des MUDs, des multi-user dungeons, donc des jeux par mail, qui, malgré la dimension fictionnelle, en fait, vraiment utilisaient très activement le web dans un contexte de quête ontologique. Vraiment, il y avait une dimension philosophique. Et effectivement, avec cette apparition des profils utilisateurs, en fait, avec le Web 2, donc c'est 2004-2005, moi j'ai vu ce passage, parce que quand j'ai commencé en fait mon travail, il y avait encore cette idéologie du soi virtuel, alors virtuel vraiment au sens poétique, hein, et ensuite, c'est devenu concrètement, avec Facebook, on a eu cette impossibilité de s'inventer soi-même, de se donner un autonyme, justement, de se choisir soi-même son propre nom, parce qu'on a imposé la nomination par nom, prénom, civil, et tout ce qui ne ressemble pas à ça, en fait, était supprimé. Donc, on a eu une rationalisation, vraiment, une espèce d'ordre de se présenter de façon réaliste. Alors, qui était finalement sous-tendu par la nécessité de construire des bases de données commerciales à forte plus-value, voilà, mais effectivement, on a peut-être des imaginaires qui finalement s'atténuent progressivement. Et c'est comme si, enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'on a eu une période un peu romantique de pensée de l'avatar et de l'identité numérique entre les années 90 et jusqu'au début des années 2000, qui finalement s'effacerait aujourd'hui parce qu'on a pris conscience justement du danger en fait de ces nouvelles formes d'identité, du fait qu'on pouvait être tracé, la dimension intrusive en fait de toute cette documentarisation de notre identité en ligne, donc du coup avec un caractère extrêmement grave dont aujourd'hui il ne s'agit plus de s'exprimer à tout va comme c'était à la mode dans les blogs des années de 2004 justement 2005. Aujourd'hui on va faire soigneusement attention de pas pouvoir être retrouvé finalement, à effacer les traces de son identité.
Pour le coup, vos œuvres d'art déjouent cette tyrannie de l'autonomie.
Et qui aujourd'hui présente de nouveaux marchés, notamment moi je commence à travailler donc sur les identités numériques post-mortem. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, d'ici 20 ou 30 ans, se positionnent déjà, dans cette optique, en tout cas des sociétés qui créent des services pour gérer vos identifiants après votre décès. Donc il s'adresse particulièrement aux gens des générations X et Y, parce qu'en effet, étant donné le développement massif de l'usage notamment des réseaux sociaux numériques, Facebook, MySpace, l'utilisation d'énormément, la création de nombreux comptes, donc que deviennent ces comptes après le décès des personnes? En fait, il se trouve qu'il y a de nombreux travaux qui ont montré que notamment sur les pages Facebook continuent en fait d'être alimentées, alors soit par les proches, soit également les pages Facebook des personnes décédées continuent de solliciter les proches en pensant que les usagers ne sont pas actifs. En fait, il y a une procédure automatique qui va notifier en fait les amis en leur demandant de recontacter un tel qui ne s'est pas connecté depuis longtemps, leur conseiller des amis de jouer avec cette personne à tel jeu. Et donc ça provoque des situations extrêmement pénibles pour les utilisateurs. Donc il y a vraiment nécessité en fait de gérer l'ensemble de ces identifiants numériques après le décès, et donc des services sont créés, donc comme iTomb, eMyLife, qui vont se présenter comme des services donc qui permettent de placer sous scellé l'ensemble de vos identifiants, justement pour éviter cette situation délicate où on a plusieurs identités numériques et on ne veut pas confier tous ces identifiants à une même personne, parce que effectivement on est encore vivant, et effectivement on a des zones d'ombre peut-être, et en tout cas donc les confier à un tiers pour se débarrasser en fait de ce problème, et également de créer, alors il y a tout un ensemble de services, donc créer ces mémoires numériques, numériser ces papiers administratifs importants, donc c'est ça qu'appelle des coffres-forts numériques. Et donc ce sont des applications qui se positionnent pour d'ici 20 ou 30 ans, lorsqu'il y aura vraiment une tension énorme dans la gestion de ces identifiants. Notamment, en fait, on peut se poser la question lorsqu'on voit des services comme Memory Life, je crois, d'Orange, bien de nombreux services qui vont vous proposer de mémoriser les plus grands instants de votre vie. Alors, avec des interfaces généralement assez sobres, avec du noir, etc. Mais on ne voit le nom, enfin, post-mortem ou après votre décès, nulle part. Hein. C'est très positif. C'est dans, voilà, la perspective d'un mariage, d'une naissance, etc. Mémoriser les grands moments de votre vie. Également, on peut supposer que Facebook se positionne aussi sur ce marché parce que donc, ça va être un énorme marché, justement, d'ici ces quelques dizaines d'années. Et donc, plein de services se positionnent dans cette perspective aujourd'hui de la gestion de nos identités.
On va peut-être prendre une dernière question pour clore le débat.
Alors, on va
vous apporter.
Je vais d'abord vous remercier beaucoup pour tous ces échanges et ce débat. J'ai particulièrement apprécié ce que vous avez dit, votre fréquentation zélée des sites de rencontres. Je n'y suis pas allé jusqu'ici, ça me donne pas mal d'idées. Alors, je voulais simplement faire quelques remarques sur peut-être des questions, des confusions qui peuvent être faites. Par exemple, distinction entre les modifications quantitatives et qualitatives apportées par le web. Par exemple, il y a des choses qui existaient bien avant. Vous avez parlé du moi, un peu, enfin, dans toutes ses fêlures et dans toutes ses divisions. Alors, effectivement, le moi cartésien, les romantiques allemands l'avaient déjà battu en brèche, ensuite le psychanalyste, ensuite les structuralistes, etc. Donc ça ne date pas de l'ère numérique. De la même façon que, par exemple, pour reprendre un autre exemple, les écritures collectives, hein, les cadavres exquis des surréalistes, et puis même pour remonter à l'encyclopédie, c'était pas seulement une juxtaposition, mais une coordination d'écriture collective. Donc tout ça, disons, n'était pas né. Donc, je crois qu'il faut faire une distinction entre le fait que, sur certains domaines, le web, l'informatique est apporté des extensions, des possibilités, disons, quantitativement beaucoup plus grandes et parfois non imaginées, mais pas forcément des modifications véritablement qualitatives dans l'activité ou la relation humaine.
Je vous laisse continuer.
De la même façon, je voulais aussi insister sur la distinction entre la communication et le support de communication. Alors, quand on parlait du corps dans la communication, je crois que ce n'est pas la même chose de dire, par exemple, de parler du trouble musculo-squelettique ou bien des réactions physiques que les internautes peuvent avoir à la perception de ce qu'ils voient sur l'écran, et puis de ce qu'on parlait du corps dans la communication sous l'angle de la psychoneurolinguistique, c'est-à-dire de toute l'interaction dans la face-à-face entre les individus. Ce n'est pas tout à fait le même corps dont on parle. De la même façon, quand vous avez parlé, par exemple, vous dites 6 heures sur 24, quand je prends dans un jeu, etc., un autre nom, je vis sous un autre nom. Mais je pense aussi qu'on pourrait penser que ce nom s'ajoute à votre nom identitaire et ne le remplace pas. Et puis, finalement, donc aussi, pour prendre disons un autre exemple dans les derniers faits que vous avez mentionnés, il y a aussi véritablement ce qui est factuel dans l'image de soi qu'apportent les réseaux sociaux, par exemple le nombre d'amis, et puis la sensibilité qu'on peut y avoir et l'impact sur soi, parce qu'on peut faire complètement abstraction de toutes sortes de choses qui se passent sur Facebook et l'utiliser que pour communiquer en réseau très étroit, en étant absolument imperméable à toutes sortes d'autres aspects, etc. Donc voilà, pour finir simplement, juste peut-être une autre remarque sous forme de question pour conclure. L'hétéronymie. Alors, moi je suis frappé par le fait que vous avez parlé de Mouchette, qui d'ailleurs avait apparemment institué un kit pour se suicider. Alors, je dirais qu'un autre utilisateur d'hétéronyme, Gary, lui, il a utilisé le kit. J'y avais aussi pour Pessoa, que vous avez cité au début, c'était pas la joie de vivre franche qui le faisait utiliser les hétéronymes. Donc moi je suis frappé par ça et je voulais vous demander, en dehors, alors pour le coup de l'aspect numérique, à tous les deux, quelle réflexion ça vous inspire alors sur le plan littéraire, l'utilisation des hétéronymes et non pas de pseudonymes, parce que le pseudonyme c'est extrêmement fréquent qu'un écrivain appelle un pseudonyme, mais d'hétéronymes par les écrivains.
Alors peut-être, je vous remercie beaucoup. Alors peut-être juste concernant la perception de l'identité, justement, alors identité essentielle, au sens essentialiste et puis au sens constructiviste. Effectivement, moi, c'était pas du tout mon intention de démontrer qu'il y avait quelque chose de nouveau dans le processus identitaire avec Internet, si ce n'est qu'effectivement, il est équipé par le numérique. Donc ça, c'est équipé avec des documents. Donc on n'a plus seulement un corps, mais un corps équipé et complété par des documents. C'est vraiment, effectivement, au sens de complémentaire, mais bien que beaucoup de philosophes en fait aient montré depuis longtemps que l'identité se construit avec l'expérience, justement les travaux de Madeleine Pastinelli, donc la sociologue dont je vous parlais tout à l'heure, qui a étudié le processus, enfin justement la perception de l'identité dans les premiers, enfin les canaux IRC dans les années 90, montraient que les premiers utilisateurs d'Internet, et je pense que c'est la même chose chez Sherry Turkle, donc toujours dans les premières communautés, les individus avaient la conviction quand même persistante qu'il y avait une identité donnée en fait en soi. Enfin, ce ne sont pas des philosophes, donc c'est vraiment le sens commun de l'identité. Vous avez cette impression qu'ils allaient découvrir leur identité comme si elle existait en soi quelque part et que le web allait leur révéler. Et en fait, moi, ce que je trouve frappant, et notamment Madeleine Pastinelli a conduit beaucoup de travaux qui visent à montrer ça, que malgré que les utilisateurs n'ont pas du tout conscience du caractère construit de l'identité et qu'ils essayent à tout prix toujours de maintenir cette conception d'identité essentialiste. Mais moi, les utilisateurs que j'ai interrogés avec justement Facebook et les blogs me tenaient pas du tout ce discours-là. C'est en ce sens que je me demande si le fait d'utiliser beaucoup ces applications n'a pas, par l'exemple, finalement, stimulé une nouvelle perception de l'identité chez les utilisateurs, bon, qui était déjà théorisée depuis très longtemps par les philosophes, mais s'il n'avait pas prendre conscience en fait de cette pluralité des formes d'identité, justement de la multiplicité des cartes d'interaction étudiées par Irving Goffman. Il est tout à fait normal d'avoir plusieurs identités dans différents cadres. J'ai une identité amicale, une identité pour mes collègues, une identité... Voilà. Il n'y a pas de problème de schizophrénie, c'est tout à fait naturel. Mais Internet formalisant en fait ces différents cadres d'identité, pour moi, ça aurait peut-être participé d'une prise de conscience en fait, chez l'utilisateur ordinaire de ces différents cadres de présentation de soi.
Voilà, en tout cas, on remercie Emmanuel Guez et Fanny Georges ce soir.
Merci à vous.